Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Vous pouvez prendre vos Bibles. Nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier sera dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Et ensuite, nous irons dans 1 Corinthiens 7, où nous aurons là aussi la lecture de deux passages. Donc commençons par Matthieu 19 et nous entendrons la lecture à partir du verset 8 à 12. Matthieu 19, 8 à 12.
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui sont devenus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et du coup, une deuxième lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 1 à 11 d'abord, puis après 25 à 40, mais d'abord 1 à 11. 1 Corinthiens. Je me suis basé. 1 Corinthiens 7, du coup. 1 Corinthiens 7, verset 1. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je vous dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. S'il est séparé, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Et du coup, une dernière lecture dans le même chapitre au verset 25, verset 25 à 40. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or, moi, juge de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'usaient pas réellement. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien, à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'ils doivent en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas. Qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Jusqu'ici la lecture.
Êtes-vous doué pour comprendre la parole de Dieu ? Eh bien, heureusement que dans sa grâce, Dieu n'a pas prévu de donner le don de comprendre sa parole que à certaines personnes. Mais en fait, il donne le Saint-Esprit à chaque croyant. Et nous comptons sur son œuvre encore ce matin pour comprendre sa parole. Nous sommes dans une série sur le célibat que je devrais peut-être plutôt intituler « Pour les personnes non mariées et ou ayant perdu son conjoint ». Car c'est cela le célibat dont je parle. Suite à la première prédication dans des discussions que j'ai pu avoir, il m'a paru que plusieurs, lorsque nous parlons de célibataires, ont la pensée générale, qui est celle-ci, « Il y a ceux qui ne se marient jamais et les célibataires ». Non, pardon. Il y a ceux qui ne se marient jamais, les célibataires, voilà, les célibataires et les autres. Ça s'appelle la pensée qui est générale. Mais bon, les autres ne sont pas tous mariés. La pensée générale, c'est qu'il y a les célibataires et il y a les autres. Nous devrions plutôt inverser, avoir cette pensée. Il y a ceux qui sont mariés, vivant les deux, et les autres, qui sont tous des célibataires. Chaque célibataire peut avoir des expériences de vie différentes. Et en voici quelques-unes. Là, je vais faire un petit peu une liste, comme ça on entre un peu dans le sujet par rapport à ça. Un célibataire qui ne s'est jamais marié. Il n'est donc jamais entré dans une alliance avec un conjoint. Et là, certains célibataires non mariés ont désiré se marier et certains le désirent encore. Certains célibataires non mariés ont vécu des fréquentations qui n'ont pas abouti au mariage. Certains célibataires non mariés ont choisi cette voie car ils ont des attirances pour le même sexe et comprennent que la parole de Dieu n'autorise pas ce genre de relation. Certains célibataires non mariés n'ont ni le désir ni vécu de fréquentation et sont bien dans leur situation. Les célibataires non mariés qui restent toute leur vie sont assimilés dans la parole de Dieu aux eunuques dans Matthieu 19 et dans Actes 8. Nous voyons déjà qu'il y a plusieurs situations de vie pour les célibataires qui ne se sont jamais mariés, mais il y a encore d'autres expériences. Un célibataire qui a été marié mais dont le conjoint est décédé. Ces célibataires sont appelés veuves ou veufs. Un célibataire qui a été marié mais qui est maintenant divorcé. Et certains célibataires qui ont été mariés ont des enfants et des petits-enfants et d'autres pas. Certains célibataires ont des frères et sœurs ou même leurs parents encore vivants, d'autres pas. Bon, je m'arrête là. On a déjà fait un bon tour en fait des situations qui existent dans le cadre du célibat. Il y a donc des célibataires non mariés, comme, alors je donne des exemples bibliques ici, comme Jérémie, Daniel, Néhémie, la fille de Jephté et l'eunuque éthiopien. Des célibataires veufs ou veuves, comme Anne, qui a rencontré Jésus enfant, où on voit Ruth pendant un temps, ou Naomi, sa belle-maman. Et il y a les célibataires divorcés, comme la Samaritaine que Jésus a rencontrée au puits de Sichar. Paul était soit veuf, soit divorcé. Comme nous l'avons vu la dernière fois, on n'arrive pas à trancher entre les deux. La Bible, pour plusieurs situations, ne nous indique pas le statut matrimonial. Est-ce que Élie et Élisée étaient célibataires? Et Jean-Baptiste? Probablement. Et qu'en est-il de Tabitha, aussi appelée Dorcas, ou Lydie, la marchande de pourpre? Ou qu'en est-il de Marie-Madeleine? Rien n'est dit sur leur statut matrimonial. Pourquoi cela n'a-t-il pas tant d'importance pour qu'on le sache? Eh bien, je suppose que c'est parce que l'état matrimonial est un cadeau de Dieu, un don temporaire au service de Dieu pour le glorifier, et qu'être marié ou célibataire ne change pas le fait de glorifier Dieu et de chercher à vivre pour son royaume. Il y a par contre des avantages différents et des inconvénients différents que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire. Ça change, c'est vrai. Et dans cette série sur le célibat, eh bien, nous avons prévu 4 parties. La première, eh bien, c'était le célibat dans l'Ancien Testament. Et là, nous avons vu pourquoi on ne parle pas beaucoup de célibataire dans l'Ancien Testament, parce qu'en fait, l'Ancien Testament est centré sur la venue de la descendance, le Messie Jésus-Christ, qui est maintenant arrivé. Ça, on a vu la dernière fois. Deuxième partie, le célibat dans le Nouveau Testament, c'est la partie d'aujourd'hui où nous parlerons en fait de ce que Jésus en dit et ce que certains nomment le don du célibat. On verra ça aujourd'hui. Puis ensuite, une prochaine fois, troisième partie, il y aura le célibat avec des fondements de vie. Là, nous verrons des sujets fondamentaux pour bien vivre le célibat. Et puis, comme dernière partie, le célibat avec des défis de vie. On parlera des défis du célibat pour terminer. Alors, dans le Nouveau Testament, nous trouvons 2 textes qui parlent plus spécialement du célibat. Nous trouvons 2 textes qui parlent plus spécialement du célibat dans le Nouveau Testament. Un de la bouche de Jésus, juste après son enseignement sur le mariage, en Matthieu 19, 11 et 12. Et un autre de la plume de Paul, dans 2 Corinthiens 7. Donc, on a ces 2 textes, dans Matthieu 19 et dans 2 Corinthiens 7. Donc, de Jésus et de Paul, mais tous les deux guidés par l'Esprit-Saint. Et donc, comme on a 2 textes, on aura 2 points aujourd'hui. Le premier sera « Le célibat, un engagement ?» Et le deuxième, « Le célibat, est-il un don ?» Donc, commençons par le premier, « Le célibat, un engagement ?» Jésus a une nature divine et une nature humaine. La double nature est un mystère, et ce que je vais dire maintenant est une réflexion et non une affirmation dogmatique. Mais au niveau matrimonial, j'aime penser que Jésus, dans sa nature humaine, est le célibataire pleinement accompli, dans sa nature humaine. Il a vécu sur terre et il n'a jamais vécu l'intimité conjugale. Il a choisi de s'engager totalement pour Dieu. Il est le modèle de tout célibataire et il comprend parfaitement les célibataires. Et dans sa nature divine, Jésus est le mari pleinement accompli. Il est l'époux de l'Église pour qui il a donné sa vie et qu'il prépare pour les jours des noces. Il comprend parfaitement aussi les personnes mariées. Allons voir maintenant ce que Jésus dit à ses disciples concernant le célibat. Et vous verrez, c'est concis, il ne dit pas beaucoup de choses. Ce sont les seules paroles de Jésus concernant le célibat sur terre. Il y a encore un texte où il dit que on sera comme les anges au ciel, on ne prendra pas de mari et de femme. Donc là, il parle de quelque chose qui se passe dans le ciel. Mais sur terre, c'est que ce texte ici, dans Matthieu 19. Et Jésus est en débat avec les pharisiens qui veulent le piéger à propos du divorce. Et Jésus remet clairement les bases du mariage en place et souligne que l'engagement conjugal est élevé. C'est un engagement à vie et il n'est pas possible de le rompre par envie. Parce qu'il semble qu'à l'époque, on divorçait assez facilement. Certains parlaient même pour un gâteau brûlé. Bon. Les disciples saisissent ici l'engagement que le mariage signifie, c'est ce que ça signifie, que c'est sérieux, que c'est, le standard est très élevé. Et on se rend compte qu'en saisissant ce que Jésus dit, ça les met un petit peu dans le questionnement. Parce qu'on se rend compte qu'avec les questions que les pharisiens viennent poser à Jésus, ce n'était pas tout à fait ce que les gens pensaient autour d'eux. Le mariage semblait ne pas signifier une si grande responsabilité. Et le divorce était, semble-t-il, courant. Et c'est là que nous trouvons le texte de Matthieu 19, les versets 11 à 12. Donc là où Jésus dit, je vais les relire, vous pouvez reprendre vos Bibles dans Matthieu 19. On viendra dans 1 Corinthiens 7, si vous avez déjà ouvert là, tout à l'heure. Donc Matthieu 19, si je reprends le verset 10, « Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. En fait, Jésus commence à dire à ses disciples que seuls certains comprennent l'enjeu du mariage. Il viendra après sur les eunuques, mais d'abord, il dit « Seuls certains comprennent l'enjeu du mariage, l'engagement qu'il signifie. Et c'est ceux qui, en Christ, saisissent l'image de Paul, du Christ et de l'Église, que Paul décrit en Éphésiens 5, que nous pouvons comprendre cette parole à propos du mariage. C'est uniquement quand on a cette image de Christ et l'Église que l'on peut comprendre la valeur élevée de l'engagement qu'il y a dans l'Église. » Qu'il y a dans le mariage, entre l'Église et Christ dans le mariage. Ensuite, Jésus dit que d'autres comprennent qu'il est possible de vivre sans se marier et pourtant vivre pour le royaume de Dieu avec un engagement élevé. Ils disent, d'autres comprennent ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et certains font le lien avec le don du célibat ici. Et ceux qui comprennent, c'est ceux qui ont le don du célibat. Et donc qui vivent bien et qui ont ce don. On va parler de ça un petit peu plus loin. Mais ici, dans les paroles de Jésus, il n'est pas question de don. Vous ne voyez pas ce terme. Il n'y a pas d'élément de don ici. Si vous pouvez regarder ces deux versets, c'est très court. Il est parlé ici de compréhension ou d'acceptation. Et le terme utilisé pourrait même être traduit par donner une place dans son cœur. Hein ? Celui qui peut comprendre, comprenne que celui qui donne une place dans son cœur pour ces choses, eh bien, peut les saisir. C'est ça que veut dire le texte. Donc ici, il n'est pas question de don. Et Jésus parle de deux engagements. Le premier, celui du mariage, d'un mari avec son épouse qui est élevé. Et le second, le célibataire envers le royaume de Dieu qui est aussi élevé. En fait, le mariage et le célibat sont les deux dans le cadre d'un engagement pour le chrétien. Donc dans le premier, c'est un engagement entre l'époux et l'épouse. Et dans le second, c'est un engagement pour le royaume de Dieu. Et Jésus utilise le terme « eunuque » qui se réfère à des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, j'aimerais vous lire un petit commentaire qui me semblait intéressant, qui nous aidera à comprendre quelques éléments importants par rapport à ces eunuques. Donc, c'est un commentaire de Danilac qui dit ceci. « Les eunuques étaient loyaux parce qu'ils n'avaient pas d'héritier. D'une part, cela impliquant qu'ils ne représentaient pas une menace pour le roi, et du fait qu'ils n'avaient aucun moyen d'établir leur propre dynastie. Mais cela signifiait aussi qu'ils étaient entièrement dépendants du roi et de ses héritiers, puisqu'ils n'avaient pas d'héritier pour prendre soin d'eux dans leur vieillesse. L'avenir de l'eunuque était lié à la survie du roi et de sa dynastie. Si la dynastie tombait, le bien-être futur de l'eunuque était compromis. Si le roi est Dieu, et que le célibataire est au service du royaume de Dieu, il n'a pas à craindre que cette dynastie, entre guillemets évidemment, cette dynastie de Jésus, qui n'a pas besoin de descendants pour subsister, tombe. Elle subsiste. À l'époque, les eunuques qui étaient dans les différentes dynasties, elles pouvaient tomber. Celui qui est dans la dynastie de Jésus-Christ, qui est pour le royaume de Dieu, est dans un endroit sûr, il ne tombera jamais. Jésus parle ici de trois catégories d'eunuques, et s'il parle du royaume de Dieu uniquement pour le dernier, ça ne signifie pas que les deux premiers ne sont pas invités à vivre pour le royaume de Dieu. Mais les deux premiers, ce n'est pas par choix personnel. Le premier, ce sont ceux qui naissent avec une incapacité à avoir des enfants de naissance. Dieu a permis qu'ils soient comme cela en conséquence de la chute qui a déréglé le développement de cette personne. Ce handicap n'empêche pas de vivre pour le royaume de Dieu et de s'engager pour le roi éternel. Les seconds sont ceux à qui l'on a enlevé la capacité d'avoir des enfants. Souvent, c'était pour servir de manière inconditionnelle un souverain. Et nous pouvons penser à Daniel, à qui cela n'a pas empêché de vivre pour le royaume de Dieu. Et les troisièmes sont ceux qui choisissent librement et personnellement de ne pas se marier pour le royaume de Dieu. Jésus indique que le royaume des cieux est la cause du célibat choisi. La motivation est de pouvoir servir Dieu avec les avantages du célibat. Le contexte nous permet donc de comprendre que Jésus ne met ni le mariage, ni le célibat comme priorité, mais que dans chacun des cas, il y a un engagement fort à vivre. Vous savez, il y a de nombreuses mauvaises raisons pour rester célibataire. Je vous en donne quelques-unes qui ne devraient pas être des raisons pour rester célibataire en tant que chrétien. Premièrement, ne pas être déçu du conjoint qui, en étant pécheur, forcément nous décevra. Donc je ne me marie pas, comme ça je ne serai pas déçu. Mais c'est une réflexion égoïste et sans notion de réconciliation et de sanctification. Deuxièmement, donc ça c'est des raisons que j'ai trouvées, hein. J'ai cherché un petit peu ce que les gens avaient comme raison, c'est des raisons que, voilà, que des gens donnent. Deuxièmement, je ne me marie pas pour faire ce que j'ai envie, faire ce que l'on a envie. Mais c'est de nouveau une réflexion égoïste qui ne tient pas compte que mariés ou célibataires, nous appartenons à Dieu. Et le croyant dit, si vous voulez vivre selon la parole et selon Galates, qui dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Troisième raison, n'avoir personne d'autre à aimer inconditionnellement que moi. Mais c'est de l'adoration de soi-même. Le croyant aime inconditionnellement Christ. Et ensuite, au travers de Christ, eh bien, aussi ceux qui sont autour de lui. Et il s'accepte aussi lui-même, évidemment. Quatrièmement, une autre mauvaise raison, comme ça, je n'ai pas de belle famille à gérer. Oh, il y a des Jean-Marie qui rigolent. Nous sommes de nouveau dans l'égoïsme et la recherche du bien-être personnel qui ne correspond pas à la vie de disciple à la suite de Jésus-Christ. Ou encore un cinquième, après je m'arrête, hein. Il y en a d'autres, mais je m'arrête ici. Pas d'enfants à élever et subvenir à leurs besoins. Toujours encore l'égoïsme, une inconscience du besoin de la société et même de l'avenir pour ses vieux jours. C'est une vue à court terme. Comme j'ai dit, je m'arrête là. Il y a encore beaucoup d'autres raisons qui sont toujours liées à l'égoïsme, comme certains, que ce soit, sont libres de flirter, ne sont pas redevables, peuvent utiliser leur argent comme ils veulent, etc., etc. Il y aurait une liste à faire de bonnes raisons pour rester célibataire. J'ai choisi ce matin de ne pas vous la donner. Ce matin, on en parlera dans d'autres rencontres, mais ce matin, j'aimerais simplement rester sur la raison principale pour rester célibataire que Jésus donne à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. C'est Jésus qui la donne. Donc si quelqu'un veut contester avec cette raison d'être célibataire, ben, c'est chez lui qu'il faut aller. Moi, je transmets. Dans ce premier point, la parole de Jésus nous permet de comprendre une vérité importante. Le célibat est un engagement. Souvent, on pense que c'est que le mariage qui est un engagement. Mais le célibat est un engagement. Qu'il soit choisi ou subi, le célibat est un engagement à vivre pour le royaume de Dieu et il n'est pas moins grand que l'engagement dans le mariage. Nous allons maintenant réfléchir à cette question du don du célibat. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le don du célibat. C'est notre deuxième point qui nous fera nous pencher sur le texte de 1 Corinthiens 7. Donc, je n'ai pas lu tout le chapitre, c'est un peu long, donc pour ça qu'on a une partie qu'on a laissée, mais je pense qu'il était. Je vais en parler un petit peu ici. Le célibat est-il un don ? Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Si tu avais le don du célibat, bah, tu ne désirerais pas te marier. Si tu as le don du célibat, c'est pour toute la vie. On va presque jusqu'à dire, et là. J'aimerais déjà vous demander pardon, j'ai un peu de sarcasme dans ce que je vais dire maintenant, mais si tu as le don du célibat, tu ne pèches plus, tu n'as plus de tentation, tu es parvenu à la sainteté et à l'état du don quotidien pour Dieu, son Église et les autres, dans la joie pure et la persévérance indéfectible. Avec le don du célibat, tu es un super-héros. Mais ce n'est pas un peu ce qu'on a l'impression d'entendre parfois ? C'est seulement si tu as ce don-là que tu peux être seul, sans te marier, puis tu n'as aucun problème de tentation, etc. Alors, je ne crois pas à cette façon de voir le célibat. Et j'espère vous le démontrer, évidemment. Parce que cette façon de penser fait aussi met la faute sur Dieu pour des souffrances. Ah, oh, j'ai le don du célibat. Enfin, il m'a donné le don du célibat, mais j'aimerais me marier. Je dis, c'est quoi cette histoire? Le début de 1 Corinthiens 7 indique clairement que le mariage implique le don de soi à l'autre, la protection réciproque contre l'inconduite sexuelle. Ça, c'est ce que dit le début de 1 Corinthiens 7. Si on lit les versets 7 à 9 dans ce passage, nous voyons, je vais le lire ici, hein, l'expression « don du célibat » est tirée du verset 7 et de nulle part ailleurs dans la Bible. Donc si quelqu'un parle du don du célibat, ça vient de là. Il n'y a pas d'autre texte. Okay ? Donc là, je vais simplement le lire les versets 7 à 9. Hein. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. » Donc c'est de ce texte-là qu'on tire le don du célibat. « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » En 1 Corinthiens 7, 7, le terme utilisé pour don ici est « charisma ». Le charisme en français, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein. C'est le terme charisma qui, selon le contexte, comme c'est le cas ici, et je le crois, veut dire un cadeau, une grâce. C'est un cadeau, une grâce qui est donnée ici. Donc je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un cadeau particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Le Saint-Esprit par Paul indique ensuite le haut standard du mariage dans lequel la séparation pour un chrétien n'est pas envisageable de sa part. Hein, si on regarde la suite du texte qu'on n'a pas lu aujourd'hui. Ensuite, Paul parle de la circoncision et de l'esclavage, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Ce qui ne signifie pas qu'un esclave qui a la possibilité d'être affranchi reste esclave, mais cela ne signifie que ce n'est pas un autre état qui change sa valeur. Le salut de celui qui a été appelé n'est pas en lien avec son état. Or là, lui, il a pris l'illustration de l'esclavage, mais il était en train de parler du mariage et du célibat. Hein, c'est une illustration que Paul prend. Puis il revient sur le sujet des célibataires, versets 25 et suivant. Et là, je reprends simplement les versets 25 à 28 pour qu'on les ait bien en tête. « Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, hors moi juste de ménagement. » À votre égard. Paul désire le meilleur pour les Corinthiens. Il continue en leur disant de ne pas mettre une importance particulière dans leurs circonstances, parce qu'elles passent. Paul désire que les Corinthiens soient sans inquiétude, et il sait que le mariage amène des inquiétudes. Verset 32, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. » Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous apporter ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Et la clé de ce discours ici, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant à votre propre attache et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Un attachement sans ombre, sans concurrence, sans tiraillement. Voilà pourquoi Paul indique que le célibat est une excellente chose, c'est pour pouvoir s'attacher au Seigneur sans tiraillement. Pour pouvoir s'attacher au Seigneur sans tiraillement. Voilà pourquoi Paul dit que le célibat est une bonne chose. Car il sait que lorsqu'on est marié, il y aura souvent des tiraillements entre un service pour Dieu et un temps pour être en couple, qui sont autant importants. Et qui font partie de notre responsabilité devant Dieu. Le Saint-Esprit termine dans 1 Corinthiens 7 en soulignant de toute sa force l'avantage du célibat, sans pour autant dénigrer le mariage, qu'il tient également en haute estime. Il termine en parlant des veuves dans 1 Corinthiens 7, 39 à 40. « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. J'étais très rapide sur tout ce chapitre, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui de faire l'exégèse de chaque partie. Mais vous pouvez constater que Paul ne dit nulle part qu'il faut chercher à savoir si nous avons le don du célibat pour décider de vivre en tant que célibataire. Vous trouvez ça nulle part ici. Cherchez si vous avez le don. C'est écrit nulle part. Vous savez, nous pouvons lire toutes sortes d'interprétations du verset 7, des plus farfelues. Nous annonçons un don surnaturel extraordinaire à une puissance d'abstinence sexuelle surhumaine. Mais le texte ne nous permet pas d'arriver à ces conclusions. Nous ne trouvons pas dans la Bible l'expression « don du célibat ». Vous ne trouverez pas. Mais le verset 7, dans le contexte de personnes mariées et de personnes célibataires, il est dit « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. » Il est question d'une grâce, d'un cadeau particulier. La vie éternelle, par exemple, est un don, une grâce, un cadeau donné à tous les chrétiens. Le célibat est une grâce accordée à tous dans un premier temps. On a vu la dernière fois, on est, notre naissance, hein, on est tous célibataires. C'est le début de notre vie. Et à certains, la grâce ou le don du mariage est donné. Mais Paul veut bien souligner que le don de grâce, le cadeau du mariage, n'est pas supérieur au célibat. Vous savez, le don du célibat n'est pas un don magique qui enlève tout désir de se marier. Le don du célibat n'est pas un don magique qui enlève tout désir de se marier. Comme le don du mariage n'est pas un don magique qui enlève tout désir d'être célibataire. Ce n'est pas parce que quelqu'un lutte dans son mariage que nous lui disons qu'il n'a pas reçu le don du mariage pour vivre à la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'on dit à des personnes qui sont célibataires. On dit « tu n'as pas reçu le don du célibat, c'est pour ça que c'est trop difficile ». Lorsque nous comprenons 2 Pierre 1, 3, nous commençons à saisir quelques éléments. Il est dit dans 2 Pierre 1, 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que nous soyons célibataires ou que nous soyons mariés, Dieu nous promet d'être avec nous et nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître Christ. » Alors nous réalisons que la question n'est plus de savoir si nous avons le don du célibat ou pas. La question est en lien avec mon état qui n'est pas forcément permanent. Un célibataire peut se marier. Une personne mariée peut redevenir seule, célibataire. La question n'est pas « est-ce que j'ai le don ?» La question devrait plutôt être « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mon célibat ?» Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mon célibat? Et si un jour je suis marié, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mon mariage? C'est ça la question. C'est pas est-ce que j'ai le don? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mon célibat ou de mon mariage? Donc arrêtons de poser la question est-ce que j'ai le don de célibat? Car cette question est enfermante, paralysante, voire terrifiante. Non, posons-nous plutôt la question qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant, dans l'état où je suis? Et si je suis célibataire, eh bien, qu'est-ce que je vais vivre maintenant dans mon état de célibat? Ce charisma, cette grâce qu'il me confie maintenant. Comment est-ce que je vais vivre pour sa gloire? Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Je ne sais pas, vous ne savez pas, personne ne sait vraiment. Mais je sais que Dieu nous dit « Ma grâce te suffit. » Et il nous donne la grâce pour l'état dans lequel il nous place temporairement durant notre pèlerinage ici-bas. Alors j'espère avoir pu un peu éclairer la question du don du célibat qui n'est pas une étiquette à découvrir et qui est collée sur une personne, mais une grâce que Dieu donne pour le temps qu'il a choisi pour mettre des personnes plus particulièrement à part pour servir et qui pointent vers Christ sans tiraillement conjugal ou familial. Et j'aimais bien ce que disait mon ami Benjamin Hagen dans un de ses articles. Il dit « C'est le célibat même qui est un don, et non pas des gens qui seraient doués pour être célibataires. En conclusion, remarquons que Jésus et Paul mettent l'accent sur la même chose. La situation dans laquelle nous vivons doit être motivée par le royaume de Dieu. Pour que cela soit le cas, nous avons besoin d'avoir un cœur transformé, libéré du poids du péché. Et c'est en reconnaissant notre égoïsme, en allant vers Jésus, qui lui n'a pas eu un seul centimètre carré d'égoïsme, que nous lui demandons pardon, comptant sur son œuvre à la croix et voulant qu'il soit notre roi. Celui qui est marié vivra dans son mariage le reflet de la relation de Christ et de l'Église. Et ensemble, les conjoints seront au service du royaume de Dieu. Étant deux, ils se stimuleront à vivre à la ressemblance de Christ. Par contre, il faudra peut-être parfois beaucoup plus de temps pour prendre des décisions. Il faudra aussi donner du temps à l'un et à l'autre. Celui qui est célibataire vivra son engagement directement avec Christ en se mettant au service du Seigneur. Et n'ayant pas la responsabilité d'un foyer avec plusieurs personnes, le cœur est ouvert envers les autres, comme Jésus qui était doux et humble de cœur. En fait, nous recevons la grâce, ou le charisma, si vous voulez, pour l'état où nous nous trouvons. Et nous, si nous sommes mariés, vivons pour Christ dans ce contexte, et si nous sommes célibataires, vivons pour le Seigneur dans ce contexte. Les changements peuvent arriver, quel que soit notre état. Celui qui est marié, il peut y avoir un décès et il se retrouve seul. Et celui qui est célibataire, il peut y avoir des rencontres que Dieu permet et il n'est plus seul. Et la prochaine fois, nous parlerons des sujets fondamentaux pour bien vivre le célibat, donc quelques éléments fondamentaux. Et vous verrez que ce n'est pas seulement pour le célibat, mais je fais le lien pour que ce soit clairement des éléments que l'on prenne avec quand on est dans ce cadre du célibat. J'aimerais encore prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ta parole aborde tous les sujets de vie, mais elle ne le fait pas comme une encyclopédie qui nous donne une définition pour chaque chose que nous vivons. Seigneur, tu nous fais entrer dans un récit, une histoire plus grande. Nous avons pu voir déjà la dernière fois et aujourd'hui au début se rappeler de plusieurs personnes qui étaient dans le célibat, dans la parole de Dieu. Seigneur, pour moi, ces exemples de Néhémie, même Ruth pour le temps où elle était en veuvage ou autre, ce sont des exemples qui nous montrent, Seigneur, que dans tout ton plan, chacun a sa place. Te remercions, Seigneur, parce que tu as donné cette grâce de vivre le mariage qui permet aussi d'avoir des enfants, qui est important pour la société. Et en même temps, tu donnes la place aussi à ceux qui te servent et qui veulent mettre toute leur force et leur énergie. Tu vois ceux qui l'ont choisi et ceux qui ne le choisissent pas. Seigneur, j'aimerais te prier de permettre à chacun, que ça soit choisi ou non, de chercher à le vivre pour ton royaume. Parce que c'est ainsi, Seigneur, que nous savons que nous pouvons vivre paisiblement ici-bas. Tu as dit à tes disciples que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que tous ceux qui ont ton esprit comprennent, pour ta gloire et pour te glorifier. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs aussi à ceux qui sont autour de nous, qui sont parfois seuls, qui ont besoin d'être entourés aussi. Et nous le verrons dans les deux prochaines prédications. Seigneur, donne-nous la sensibilité particulièrement pour ceux qui se donnent pour toi et qui ont besoin d'une famille dans laquelle ils peuvent grandir et que cette église puisse être cette famille où les liens peuvent se créer, où on peut se soutenir, s'encourager d'une manière qui manifeste l'amour de Christ. Dans le bon nom de Jésus, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.